Merci beaucoup pour ces chants préparés. Les enfants entre 0 et 4 ans peuvent descendre. Ils ont un programme adapté, mini-cell. On va avoir maintenant le temps de la parole et j'invite Eric Cazès qui a préparé le message. Et je vous invite à la prière pour remettre notre écoute de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous te remercions pour les Écritures et la parole prêchée ce matin. Nous te remercions pour Eric Cazès qui a consacré du temps, de l'énergie pour partager cette méditation. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole, que nos cœurs soient un peu comme une terre qui accueille la semence de ta parole, que ta parole soit féconde en nous et que ton esprit qui donne la vie donne à cette semence de croître, de porter du fruit et qu'ainsi d'autres puissent bénéficier de cette nourriture autour de nous et au-delà de nos murs. Amen.
Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Je ne sais pas si le micro fonctionne, ça joue. Ok, merci. Dimanche passé, avec une petite équipe, nous n'étions pas ici, nous étions à la montagne pour le week-end du cours Alpha. Nous avons vécu un super week-end. C'était magnifique malgré le temps qui n'était pas de la partie. J'aimerais vous demander de prier pour le cours Alpha. Nous avons encore 4 rencontres et nous avons un couple d'animateurs qui est malade et qui ne pourra pas continuer, mais nous avons une équipe qui est suffisamment étayée pour qu'on puisse poursuivre le parcours Alpha. Et le prédicateur ou l'enseignant qui devait nous parler de la guérison pour le vendredi qui vient, lui-même est malade. Ça va bien puisque nous parlerons ce matin des miracles de Jésus. Et vous le savez sans doute qu'une communauté sœur de la nôtre vit aussi des temps difficiles au niveau de la maladie. Alors on peut prier aussi pour la Colline qui vit cela. Les miracles de Jésus, ça ne sera pas forcément une méditation, parce que c'est un thème, et un thème c'est toujours un petit peu difficile à envisager, parce qu'on ne peut pas tout dire, on doit être partiel. Alors je ne dirai pas tout sur ce thème, je dirai certaines choses, il en manquera beaucoup, ça sera un regard, ça ne sera pas le regard de Philippe Yancey, ça sera un autre regard que celui du livre que l'on est en train de lire ou d'étudier sous forme de prédication. Mon message sera un petit peu squelettique aussi, parce que ma femme m'a dit, il faut que tu le donnes en entier. Il faut que tu dises tout. Or, j'ai dû élaguer. Je n'ai pas raccourci la longueur, mais j'ai élagué. Alors, je ne veux pas d'histoire de couple. Donc voilà, et les miracles ici, il s'agit bien des miracles de Jésus et non pas des miens, parce que si c'était mes miracles, eh bien la prédication serait beaucoup plus courte. Donc vous serez de toute façon un petit peu frustrés, car mon message sera limité. Je pense qu'il répondra à certaines questions, mais j'espère qu'il en suscitera beaucoup chez vous, qu'il y aura plein de questions qui surgiront. On ne traitera pas après le message. Voilà. À peu près tout ce que je vais dire sera mis sur l'écran. Quelques approches des guérisons de Jésus. Eh bien, passablement de personnes n'y croient pas. C'est tout simple, on ne croit pas aux guérisons et aux miracles de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'on est un monde rationnel, matérialiste, on croit ce que l'on voit et si on veut croire en quelque chose, il faut pouvoir l'expliquer. Donc, pour certains, ils vont faire des recherches d'explication des miracles de Jésus. Mais comme un miracle, c'est une modification des lois naturelles, une modification, un rétablissement de celles-ci. Si on réussit à expliquer le miracle, vu par moi en tout cas, c'est que le miracle disparaît. Il y a des personnes qui ont une croyance partielle. C'est-à-dire qu'ils disent « oui, il s'est peut-être bien passé quelque chose avec Jésus. Il y a eu des événements à l'époque, mais en fait ça a été embelli par les disciples, puis par les apôtres, qui ont embelli ce que Jésus avait fait, simplement parce qu'ils voulaient augmenter la notoriété de Jésus. Pour d'autres, eh bien, si Jésus n'avait pas fait de miracle, ça serait mieux. Ou en tout cas, si on ne les avait pas rapportés. Pourquoi ? Tout simplement parce que le message de Jésus est suffisamment révolutionnaire pour qu'il se suffise à lui-même. Et ces miracles, ça vient amener une note surnaturelle qui est embêtante. Donc mieux vaut prendre simplement le message en éliminant les miracles. Mais si on fait cela, eh bien on fait de Jésus simplement un révolutionnaire, peut-être un révolutionnaire de génie, mais seulement un révolutionnaire. Pour d'autres, on y croit, mais comme une illustration, c'est-à-dire que si on prend la notion de la lèpre, Jésus guérit un lépreux, ben on va dire la lèpre, c'est l'image du péché qui insensibilise la personne. Et puis Jésus vient, et puis il guérit comme il fait avec le péché. Ce n'est pas faux. Mais parfois, quand on prend cette traversale, eh bien, ce qui se passe, c'est que petit à petit, le miracle disparaît et on spiritualise tout ce qui est dans l'Écriture. Pour d'autres, si Jésus a fait des miracles, l'Église elle-même devrait aussi en faire. Et certains vont dire, oui, mais c'était que pour l'Église primitive. Voilà donc différentes approches. Et vous, croyez-vous au miracle ? Croyez-vous que Jésus a vraiment fait ces miracles ? Alors, les miracles, ici, je les ai partagés en deux catégories de miracles. Il est possible de les partager en autant de catégories que vous voulez. C'est complètement arbitraire ce que j'ai fait là. J'ai pris les miracles qui sont toujours, bien sûr, des actes de puissance, des actes d'autorité de Jésus, mais aussi des actes de compassion. Vous savez, la compassion, c'est cet amour qui souffre de la souffrance des autres, et parce qu'il y a cette souffrance pour les autres, eh bien, il y a une mise en mouvement. Et Jésus a fait des miracles, parfois uniquement par compassion. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades. Derrière ces guérisons-là, il n'a rien d'autre que cet amour, cette compassion de Jésus pour les gens qui souffrent. Et puis, il y a une autre catégorie de miracles. Dans cette catégorie de miracles, il y a bien entendu la puissance du Seigneur, l'autorité du Seigneur. Il y a la compassion du Seigneur. Mais en même temps, ces miracles sont des signes. Et c'est plutôt l'évangile de Jean qui va utiliser le mot « signe » en parlant des miracles de Jésus. Alors, on a ici un exemple, je vous donnerai un autre exemple après. Lorsque Jean Baptiste, de sa prison, a envoyé des disciples auprès de Jésus pour lui demander « Mais-tu celui qu'on attend ou bien est-ce qu'on doit en attendre un autre ?» Jésus a dit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Ici, nous avons simplement Jésus qui est en train de dire ces signes d'autorité, ces miracles qui se passent sont des signes qui manifestent la présence du roi des rois sur la terre. C'est un signe. Alors voilà, un signe, juste en quelques mots, c'est un peu le lien entre ce que l'on voit et ce que l'on croit. Ce que l'on voit, ben c'est le miracle, et puis dessous, ce qu'on ne voit pas, eh bien c'est ce que Jésus aimerait qu'on découvre. Et le signe, c'est l'image de quelque chose, et il y a quelque chose de plus grand dessous qu'on ne voit pas. Je l'ai illustré par un iceberg. L'iceberg, eh bien voilà, vous le savez, il y a un dixième qui est dessus, on le voit, et puis dessous, il y a les 9/10. Le Titanic s'était rendu compte qu'il ne l'avait pas vu, et ça leur a causé des problèmes. Mais il y a 9/10 sous la surface de l'eau. On peut donner comme illustration très pratique, très concrète, la guérison du paralytique dans Luc 5. On ne va pas lire cette histoire, mais vous le savez, Jésus est en train d'enseigner à des docteurs en théologie, et puis voilà que le plafond s'ouvre, et puis un lit descend, il y a un paralytique dessus. Ce paralytique arrive là au milieu, et puis Jésus s'approche de cet homme. Ben, je suis sûr que cet homme pensait qu'on allait le guérir immédiatement, et puis il a peut-être été déçu parce que Jésus ne le guérit pas. Jésus lui dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Ah ben mince. Ou peut-être qu'il était plus content, je ne sais pas. Mais lui pensait peut-être plus à la guérison qu'au pardon des péchés. Toujours est-il que les docteurs en théologie qui étaient présents disent « Ouais, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça ne joue pas. Seul Dieu est capable de pardonner les péchés. » Oui, seul Dieu est capable de pardonner les péchés. Et Jésus, lui, va dire « Mais mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Parce qu'est-ce qu'il est plus facile de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou « Lève-toi et marche. » Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Voilà, le signe, c'est que ce qui est visible ici, c'est la guérison du paralytique, et ce qu'on ne voit pas, c'est le pardon des péchés. C'est cette autorité de Jésus qui pardonne les péchés. Mais si on va regarder encore un peu sous l'eau, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'iceberg? Eh bien, dans Apocalypse 5, 9 à 10, on va voir « Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu en as fait pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. » Personne ne comprenait que Jésus avait cette capacité de pardonner les péchés. Et ici, ce texte nous dit pourquoi il est capable de pardonner les péchés. C'est qu'il est mort sur la croix pour racheter les pécheurs, pour pardonner aux pécheurs, mais pas seulement, aussi pour se faire un peuple élu, un peuple de prêtres, qui, eux, ont aussi l'autorité de pardonner les péchés. Savez-vous que vous avez autorité pour pardonner les péchés? On a le droit de dire à quelqu'un, si tu confesses tes péchés, et si tu crois en Jésus, tes péchés te sont pardonnés. C'est une autorité que nous avons, que Dieu nous donne, que Jésus nous donne. Et en ce sens-là, nous faisons fonction de prêtre. Ce n'est pas nous qui payons le prix, c'est Jésus qui a payé le prix. Mais on peut parler de cette autorité que Dieu nous donne. Jésus et ses miracles. Jésus ne guérissait pas tout le monde. Un exemple, à la piscine de Bethesda. Vous savez, c'est cette piscine où il y avait beaucoup de monde, et puis, de temps en temps, l'eau s'agitait, et puis le premier qui pouvait aller dans ce bassin était guéri. Et Jésus choisit un homme. Je ne vais pas parler de cette piscine que je trouve horrible, personnellement, mais pour vous dire simplement que voilà cette piscine et Jésus s'approche d'un homme et c'est cet homme-là qu'il guérit. Il y en avait d'autres. Et c'est un homme qui était là depuis 38 ans et qui n'avait aucun moyen d'aller se plonger dans cette eau. Moi, je trouve que c'est épouvantable. Mais Jésus s'approche de celui-là, mais pas des autres. Jésus avait du discernement. Il savait faire la différence entre quelqu'un qui était malade et quelqu'un qui avait un esprit. J'ai entendu plusieurs fois des théologiens dire « Oh, Jésus pratiquait ce qui se pratiquait à l'époque. On confondait esprit et maladie. » Eh bien, si on lit bien les textes, on voit que Jésus, à un moment donné, guérit un sourd, par exemple, c'est juste un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Jésus guérit un sourd, et puis un autre, il va chasser un esprit. Il fait la différence de l'un à l'autre. Jésus avait du discernement. Parfois, il posait des questions. C'était des questions qui, parfois, paraissaient un peu stupides, mais elles ne sont pas si stupides que ça quand on y réfléchit. Une question, par exemple, qu'il posait de temps en temps, « Veux-tu être guéri ?» Vous avez déjà posé cette question à un malade ? Ben, malade, il va vous dire oui, sauf s'il a du bénéfice à rester malade. S'il a un bénéfice à rester malade, eh bien, peut-être qu'il ne va pas dire oui. Qu'est-ce que tu veux ? Parce qu'être guéri, c'est reprendre des responsabilités, c'est reprendre une vie normale, etc. Jésus s'intéressait à ça, l'aspect psychologique de la guérison. Qu'est-ce que ça implique d'être guéri ? Donc Jésus posait ce genre de questions. Ou bien, que veux-tu que je te fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu es aveugle, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Peut-être que tu n'as pas besoin de guérison, que tu ne la désires pas. Donc Jésus posait des questions qui paraissent parfois simplistes, mais qui sont d'une pertinence impressionnante. Jésus guérissait même si le but n'était pas atteint. Parce que le but, en fait, de Jésus, c'est d'amener les gens au Père, les amener au salut. Eh bien, une fois, il y a 10 lépreux qui sont venus vers Jésus et qui ont demandé à être guéris. Jésus les a envoyés se montrer au prêtre. Et puis, en chemin, les 10 ont été guéris. Un seul est revenu vers Jésus. Et Jésus lui dit, « Enfin, tu es le seul qui était guéri, ou sont les 9 autres ?» Ben, ils ont continué leur vie. Puis Jésus lui dit, « Ta foi t'a sauvé, pas t'a guéri, t'a sauvé. Cet homme a été guéri et a été sauvé. » Les 9 autres pas. Mais Jésus n'a pas dit « J'arrête de guérir les gens ». Il a poursuivi son chemin dans le cadre de la guérison et des miracles, simplement par compassion pour les gens. Quand il faisait des miracles, Jésus les faisait pour manifester la gloire de Dieu. Vous savez, la gloire de Dieu, c'est quelque chose de très important dans la Bible. Dans Ézéchiel, quand la gloire de Dieu quitte le temple, c'est une catastrophe pour Israël. La gloire de Dieu, c'est excessivement important. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est la manifestation de sa présence. C'est la manifestation de sa puissance. C'est la manifestation du caractère de Dieu. C'est la manifestation de sa magnificence. Alors Jésus, lorsqu'il faisait des miracles, qu'il guérissait, il manifestait ainsi la gloire de Dieu. Il ne fabriquait pas artificiellement les signes. Il ne disait pas « Ah, je vais guérir un paralytique pour montrer que je peux pardonner ». Non, il ne faisait pas cela. C'était au hasard des circonstances qu'il guérissait, au hasard des rencontres, il guérissait, il faisait des miracles. Il ne fabriquait pas des miracles pour faire des signes. Les miracles devenaient des signes par eux-mêmes. Il faisait des miracles dans son quotidien, d'une manière naturelle. Alors ici, si je ne vous donne pas quelques mots d'explication, Jésus ne priait pas, vous ne voterez pas pour moi lorsqu'on me représentera au conseil pastoral. Jésus ne priait pas. Alors, je dois vous donner quand même quelques mots d'explication. Mais ce que je vais vous dire maintenant ne doit pas nous empêcher de prier pour les malades et de prier avec les malades. Ce que je mets ici, quand je dis Jésus ne priait pas, c'est qu'il ne priait pas avec les malades. Il priait beaucoup, Il passait parfois une nuit en prière. Il priait très tôt le matin. Mais quand il y avait un malade, il ne priait pas avec lui. On ne voit pas de prière de Jésus avec les aveugles, avec les sourds, etc. Jésus agissait. Il touchait les gens. Il ordonnait. Il y a une palette d'actions qu'opérait Jésus. Il impose les mains, il met les doigts dans les oreilles, il fait de la boue et la met sur les yeux des aveugles. Il dit à quelqu'un, un paralytique, « Prends ton lit et marche !» Il chasse les démons. Il prend la main de la fille de Jaïrus, lui ordonne de se lever. Elle était morte. Il n'est pas resté à prier à côté d'elle. Il a pris sa main et lui a donné l'ordre de se lever. Et puis Jésus conseillait ses disciples. Alors que Jésus est sur la montagne, c'est la montagne de la Transfiguration, les disciples sont en bas en train de se batailler pour essayer de guérir quelqu'un. Un jeune homme qui de temps en temps se jette dans le feu, de temps en temps dans l'eau, le père est désespéré, et les disciples n'arrivent pas à guérir ce jeune garçon. Et Jésus leur dit, c'est que par le jeûne et la prière, que cet esprit-là peut s'en aller. Il conseille ses disciples, ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille, ce qui voudrait dire que on a besoin de discipulat dans ce domaine de la guérison, dans ce domaine des miracles. Jésus conseillait, les choses ne se font pas toutes de la même façon, il faut savoir comment s'y prendre. En fait, Jésus avait une autorité dans tous les domaines, dans l'enseignement, la prophétie, mais aussi dans les miracles, la guérison. Pour nous, on va quand même revenir un petit peu à nous, pour nous, eh bien, la première chose que l'on peut dire, c'est que le royaume de Dieu n'est pas fait de guérisseurs. Le royaume de Dieu est fait d'hommes et de femmes qui sont d'accord d'obéir à Dieu et de marcher selon le cœur de Dieu. Jésus disait dans Matthieu 7, « Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais ceux qui font la volonté de mon Père. Ce ne sont pas ceux qui font des miracles et des grandes choses, mais ceux qui obéissent à mon Père. » Mais les miracles sont les signes du royaume. Ils manifestent la compassion de Dieu. Et j'aimerais dire ici que la compassion de Dieu ne se manifeste pas qu'au travers des miracles. Elle se manifeste au travers de beaucoup d'autres choses. Le soin, les soins qu'on peut apporter aux malades, aux gens qui ont des difficultés, les hôpitaux, les médecins, les écoles, tout ça sont des actes de compassion de Dieu. On ne peut pas limiter cela simplement aux miracles. Mais le miracle, la guérison, a ceci de plus, c'est qu'il manifeste cette puissance de Dieu qui nous dit « J'ai cette puissance de rétablir les choses. Je le ferai complètement à la fin des temps, mais maintenant je vous donne comme des clins d'œil, comme des petites ouvertures où vous voyez ma puissance se manifester pour le renouvellement de toute chose qui se fera entièrement à la fin quand Jésus reviendra. » Dans ce sens-là, la nouvelle naissance est quelque chose d'extraordinaire. Parce que la nouvelle naissance est déjà le renouvellement de notre personne. C'est déjà le démarrage d'une création nouvelle qui est celle qui viendra complètement dans le futur, lorsque les temps seront accomplis. Et c'est cela, sans doute, déjà là le plus grand miracle. Jésus n'a pas seulement enseigné comme on l'a vu jusqu'à maintenant, Jésus a aussi fait ses miracles. Et Luc nous dit dans les Actes, « J'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. » Donc ce que nous disons ici, c'est le début de ce que Jésus va faire. Il a commencé d'enseigner, et on a cela dans les Évangiles, et il a commencé de faire des choses aussi, ce que nous lisons dans les Évangiles, mais il poursuit son action, et nous découvrons son action dans le livre des Actes des Apôtres, puis dans l'histoire de l'Église. Parce que Jésus va poursuivre son travail, va poursuivre son enseignement, va poursuivre ses miracles au travers de son corps. Chacun de nous est un membre du corps de Christ. Et Jésus délègue son autorité au travers des dons et des ministères. Chaque don, chaque ministère est comme une autorité que Dieu donne. Quelqu'un qui enseigne, il a une autorité déléguée par Jésus. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il va dire est juste. C'est pour ça qu'il faut contrôler. Celui qui prophétise a reçu une autorité de Jésus. Ça ne veut pas dire que sa prophétie sont toujours justes. Il faut les contrôler. Nous avons tous reçu un ou des dons, c'est-à-dire un, une ou des autorités que Dieu nous donne et dont il nous rend responsables. Alors j'ai mis ici une liste, paroles de sagesse, de connaissance, la foi, les guérisons, les miracles. Ce sont des autorités, et c'est parce que ce sont des autorités qui nous sont données que l'apôtre Paul va parler de soumission. C'est rarement le problème des charismes, ou bien c'est rarement les charismes qui sont le problème. C'est la gestion des charismes qui est le problème. Et l'apôtre Paul parle ici, nous parle de soumission dans l'Écriture. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de soumission les uns aux autres, il y a le risque de prise de pouvoir. Et c'est là qu'on a la catastrophe. Moi, je parle aussi de triple soumission. Celui qui a un don, ce don est soumis à sa personne. Mais sa personne doit être soumise à la communauté, et la communauté est soumise à la parole de Dieu et au Seigneur. Et ça forme une triple soumission, et comme cela, les choses peuvent se vivre très sereinement. Nous n'avons pas tous le don de faire des miracles ou des guérisons. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, 29 à 30, nous dit « Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils enseignants ? Tous font-ils des miracles ?» À ces questions de l'apôtre, on va répondre non. Non, tous ne sont pas des enseignants, tous ne sont pas des apôtres, tous ne sont pas des gens qui peuvent faire des miracles. Donc nous n'avons pas tous le don de guérison, le don d'enseignant, le don de prophétie. Non, nous n'avons pas tous ces dons. La difficulté, c'est de découvrir notre domaine d'autorité. Ça, c'est la première difficulté. On appelle ça souvent les dons, mais je l'appelle domaine d'autorité. Et la deuxième chose qui est difficile, c'est le passage à l'acte. Oser employer son domaine d'autorité. Eh bien, par exemple, nous avons tous autorité, là on l'a tous. Nous avons tous autorité pour témoigner de Jésus autour de nous. Mais vous êtes d'accord que lorsque vous êtes avec un collègue et qu'il y a une discussion, le passage à l'acte, dire est-ce que je vais témoigner ou pas, il faut faire ce passage à l'acte. Ça, c'est un peu difficile. Pour celui qui enseigne, imaginez un jeune pasteur, il a fini ses études, il va donner sa première prédication. C'est pas tout simple. Il faut passer à l'acte. Il va avoir mal au ventre. Moi, j'en avais mal au ventre aussi ce matin, parce que chaque fois qu'on prêche, c'est un passage à l'acte. Et pour les dons de guérison, c'est la même chose. Il faudra passer à des actes et des paroles d'autorité au nom de Jésus. Il ne s'agit pas d'avoir une voix forte, de dire « Sois guéri !» Ce n'est pas ça. L'autorité n'est pas dans la puissance de la voix. L'autorité, elle est dans le nom de Jésus. C'est lui qui nous délègue cette autorité, mais c'est en son nom qu'on l'a, comme ambassadeur. ce qui pourrait nous empêcher de libérer le don de guérison dans le cadre d'une communauté ou dans le cadre de groupes, eh bien, c'est de ne pas savoir qui a un don de guérison. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est... Et on le sait que parfois, c'est un don qui est donné même ponctuellement. Donc, on ne sait pas. Il faut du courage, il faut du courage et de la foi. Mais comme dans tous les domaines de la vie de foi, il faut du courage et de la foi. Peut-être celui-là un peu plus parce qu'il y a le regard des autres. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il dit ? Comment il s'y prend ? Et puis est-ce qu'il y aura un résultat ? Alors, quand on parle de résultat, je vous rassure, il y en a peu. Alors ça, c'est un peu plus embêtant. Ça donne moins envie de pratiquer le don de guérison, le don d'opérer des miracles. 5% d'après Jean-Claude Chablot. Alors vous imaginez quelqu'un qui, vous avez 100 personnes, ils prêchent, qui sont malades, il impose les mains ou je ne sais pas ce qu'il fait à 95 personnes, personne n'est guéri. Il n'y a que les 5 derniers. Ben, il faut de la foi et du courage. Et quand Jean-Claude Chablot nous parle de 5% de guérison, il ne s'agit pas de simples Pékins comme moi, mais il s'agit de ce qu'on appellerait les pontes de la guérison, des gens reconnus comme ayant un don de guérison. D'autre part, c'est un domaine délicat. C'est le domaine, franchement, de la souffrance. C'est le domaine, la maladie, hein, c'est le domaine de la souffrance. On a envie d'en sortir. On a l'espoir d'en sortir. Est-ce que nous avons le droit de donner un espoir ou un faux espoir ? C'est pas tout simple. Il y a beaucoup d'abus. Ah, tu n'es pas guéri, c'est parce que tu n'as pas la foi. Ou bien il y a du péché dans ta vie. Côté de ça, il y a plusieurs doctrines. Certains disent, ouais, c'est du pipeau, c'est de la manipulation de foule, ça n'a pas de valeur, c'est tant de guérison. D'autres diront, c'était valable pour la première église. D'autres disent, c'est le malade qui reçoit le don de guérison. Il y a pas, c'est pas une personne qui a un don de guérison, c'est le malade qui reçoit le don de guérison. Enfin, on peut allonger la liste des arguments qui iraient plutôt contre ou la difficulté à pratiquer ce don de guérison, et vous pouvez poursuivre vous-même la liste. D'autre part, c'est un domaine difficile à appréhender. Jacques, disciple de Jésus, apôtre, est mis en prison. On le tue, condamné à mort, éliminé. Quelque temps plus tard, très peu de temps après, Pierre est emprisonné à son tour. Il est au fond de la prison, et pendant qu'il dort, un ange vient, enlève ses chaînes, ouvre les portes, il le fait sortir. Pourquoi l'un meurt ? Pourquoi l'autre est libéré ? C'est difficile à dire. Paul, qui a eu tant de miracles, tant de guérisons, était malade. Un ange de Satan le souffletait. Il a demandé X fois la guérison. Il ne l'a jamais eue. « Ma grâce te suffit », lui a-t-il été répondu. À Timothée, son fils bien-aimé, il lui dit « Mais ouais, tu as des maux d'estomac ». Et puis tu as des faiblesses, peut-être des espèces d'évanouissements. Ben, prends un peu de vin. C'était, on peut dire, la médication de l'époque pour ce genre de problème, surtout que l'eau n'était pas très buvable à l'époque. Paul laisse Trophime à Milet, il le laisse malade, et il l'écrit, etc. On pourrait continuer. C'est pour ça que je note ceci, à l'autorité que Dieu donne à l'Église, se superpose une autorité supérieure que j'appelle le dessein souverain de Dieu. De temps en temps, le rideau s'ouvre au travers de prophéties, mais autrement, nous ne comprenons pas. Ce qui pourrait nous encourager à vivre ces guérisons et ces miracles, Jésus et les apôtres pratiquer cela. L'Église primitive aussi. Paul dit quelque chose de surprenant à l'Église de Galate. L'Église de Galate était une Église qui était moribonde. Ils croyaient, ils avaient carrément quitté la foi, pour ainsi dire, et puis ils vivaient de l'égalisme. Ils pensaient qu'il fallait rajouter la loi de Moïse pour être sauvés. Et Paul leur dit, est-ce que vous avez des miracles chez vous parce que vous pratiquez la loi, ou est-ce que vous avez ces miracles parce que vous avez reçu la parole de la foi? Donc dans cette église, il y avait des miracles. Et puis, 5% c'est peu, mais ce n'est pas si peu que ça. Parce que si vous avez une assemblée comme celle-ci, qui a 100 malades, et qu'il y en a 5 qui sont guéris, ben pour ces 5, c'est quand même différent. Il y a quand même une autre vie qui commence. Et puis, je ne sais pas si j'ai le temps. Oui, je le prends quand même. Ça joue pour vous. Vous me suivez ou bien... Voilà. Juste pour vous dire, faites de l'évangélisation, favorisez l'évangélisation. Mais je veux raconter une petite histoire. Noël en fête, 100 non-croyants dans la salle, au moins. Un évangéliste qui est sur scène, il évangélise, il fait un appel. Deux personnes se sont avancées. Deux personnes. C'est déjà pas mal. On ne sait pas s'ils sont convertis. Mais ça fait du 2%. L'année d'après, on lui a demandé de revenir. Si on se base que sur des chiffres, on ne fait plus rien. Donc je crois qu'il faut être objectif et de dire qu'il y a des choses qui nous échappent, mais qu'il faut persévérer, continuer d'avancer, continuer d'évangéliser, continuer de croire aux miracles que Jésus peut faire. Et ne pas négliger l'autorité que Dieu donne à son Église, passer se priver de bonnes choses, et sachant que ces bonnes choses sont pour le bien commun. Ce n'est pas pour soi que l'on a ces autorités, mais c'est pour le bien commun. J'arrive bientôt au bout de mon message. Mais si on n'a pas de miracle, si on n'a pas de guérison, on risque de désespérer. Eh bien, si on n'a pas de miracle et de guérison, le Seigneur nous invite à être nous-mêmes un miracle pour les autres, être nous-mêmes un signe du royaume pour les autres. Comment ? Par un comportement extraordinaire. Vous avez tous vu des gens qui ont un comportement extraordinaire, des gens qui sont des promoteurs de paix, des gens qui sont des promoteurs de justice, de vérité, d'amour. Et vous dites, mais c'est pas possible ces gens, qu'est-ce qu'ils ont? Il y a quelque chose en plus dans leur vie. Ou des gens qui sont dans une situation difficile, très difficile, et malgré leurs difficultés, ils s'occupent des autres. Il y a de l'amour, il y a de la foi, il y a le pardon qui est là, il y a la joie. Et on se dit, mais qu'est-ce qui les anime ces gens-là? Bon, je vais juste encore vous parler de quelqu'un qui était extraordinaire, qui a vécu des choses difficiles et qui a eu un comportement extraordinaire. C'est Jésus sur la croix. Vous imaginez que quand Jésus est sur la croix, il vient de souffrir un supplice terrible. On l'a flagellé et à l'époque, les fouets étaient dévoreurs de chair et de peau. Et le supplice de la croix était un des pires qui existent. On y mourait d'asphyxie. Donc, en plus des souffrances physiques, il y avait cette angoisse de la respiration qui s'en allait. Donc, c'est quelque chose d'excessivement dur. Et Jésus est là, dans cette situation excessivement difficile. Et sa mère est au pied de la croix. Et Jésus va prendre soin de sa mère. Il va dire à Jean, prends-la comme ta maman. À ceux qui passaient, près de la croix et qui disait « Mais tu as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. » Jésus a refusé ce miracle pour lui-même. Il est resté sur la croix. Et qu'est-ce qu'on ne ferait pas quand on a mal? Hein, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Mais pour lui, il a refusé de faire quelque chose. Il a évangélisé le brigand qui était à côté de lui. Il a pardonné à ceux qu'il avait maltraités, qu'il avait mis là sur le bois. À un moment donné, il a dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a dit ça à son père. J'ai marqué les « pourquoi » sans réponse. Il a eu des « pourquoi » auprès de son père et son père ne lui a jamais répondu. Il n'a pas eu de réponse. Jésus est mort sans avoir de réponse. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas de réponse qu'il perd la foi, parce qu'il va remettre son esprit à son père et il remet son esprit avec foi. Sans réponse, avec foi, il remet son esprit. Pendant que ces choses se passaient, il y eut des tremblements de terre. On était dans le courant de l'après-midi, l'obscurité est venue, des miracles se sont passés. Les deux regards. On va lire juste deux textes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Voilà, c'est Matthieu qui a un regard sur les événements qui se sont passés. Et pour Matthieu, vous remarquez, il attribue la conversion du centenier essentiellement au tremblement de terre. Il les mentionne. Pour lui, ça a été quelque chose d'important. Si nous lisons maintenant ce que dit Marc, le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, ça veut dire tout le processus de mort de Jésus, ce n'est pas juste de la fin, dit assurément, cet homme était fils de Dieu. Marc attribue, lui, la conversion du centenier, il l'attribue au comportement de Jésus sur la croix. Ce n'est pas contradictoire. Ce sont deux regards différents. Un attribue une conversion au miracle, l'autre attribue la conversion du centenier à l'attitude de Jésus sur la croix, au comportement extraordinaire. C'est pourquoi je dis la chose suivante, sur l'échelle des signes, le comportement extraordinaire et le miracle sont sur le même échelon. Le comportement extraordinaire, c'est le comportement où ça devrait être le comportement normal du chrétien. Nous devrions être, par notre comportement, des signes du royaume. Et le chrétien devrait pouvoir vivre naturellement une vie surnaturelle. Sachant que les miracles sans le comportement extraordinaire ou le comportement selon le cœur de Dieu, Jésus dit « Je ne te connais pas ». Le comportement selon le cœur de Dieu sans les miracles, Jésus dit « Je te connais par ton nom ». Le mieux pour nous, me semble-t-il, c'est un comportement selon le cœur de Dieu, avec les miracles, et on a le tout. Mais le plus grand des miracles encore, c'est lorsque nous dirons « Maranatha », Jésus revient, parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus ni mort, ni maladie, ni souffrance, ni injustice. Alors on peut dire ensemble, Maranatha, Jésus revient. Amen.